Hum.
Réverbère.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison. Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants. Avec un grand R.
Oh !
Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Oh !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Nous sommes encore un pays de caste. Des écarts excessifs de revenus, une mobilité sociale insuffisante maintiennent des cloisons anachroniques entre les groupes sociaux. Des préjugés aussi. Par exemple, dans une certaine catégorie de la population non ouvrière à l'encontre des métiers techniques ou manuels. J'ajoute que ce conservatisme des structures sociales entretient l'extrémisme des idéologies. On préfère trop souvent se battre pour des mots, même s'ils recouvrent des échecs dramatiques, plutôt que pour des réalités. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à accomplir des réformes autrement qu'en faisant semblant de faire des révolutions. La société française n'est pas encore parvenue à évoluer autrement que par crise majeure. Ce tableau est volontairement brossé en couleurs sombres. Je le crois nécessaire, comme je crois aussi que les Français sont aujourd'hui en état de le considérer et d'en tirer les leçons. C'est aussi parce que j'ai la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle, où de grands changements sont possibles. On me dira qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des forces de résistance au changement. Je le sais bien, il y a un conservateur en chacun de nous. Et ceci est vrai dans chacune des tendances de l'opinion, y compris celles qui se réclament de la révolution. Je le sais d'autant mieux que je le comprends. Depuis 20 ans, la France, après avoir longtemps retardé les échéances et les mutations, s'est trouvé obligé de les affronter tout à la fois. Explosion démographique, bouleversement technologique, décolonisation, urbanisation et maintenant compétition internationale pleine et entière. Comment chacun de nous n'aurait-il pas sur tel ou tel point un réflexe de conservation ? Réflexe d'autant plus justifié que nous avons en effet bien des choses excellentes à conserver. Car nous sommes un vieux peuple et nous avons beaucoup accumulé. Et pourtant, je suis certain que nous devons aujourd'hui nous engager à fond dans la voie du changement. Il y a à cela deux raisons principales. La première est que si nous ne le faisions pas, nous nous exposerions à un avenir qui ne serait guère souriant. La seconde raison, la raison positive, c'est que la conquête d'un avenir meilleur pour tous justifie à elle seule tous les efforts, tous les changements. Il y a peu de moments dans l'existence d'un peuple où il puisse, autrement qu'en rêve, se dire « Quelle est la société dans laquelle je veux vivre ?» et aussi construire effectivement cette société. J'ai le sentiment que nous abordons un de ces moments. Nous commençons en effet à nous affranchir de la pénurie et de la pauvreté qui ont pesé sur nous depuis des millénaires. Le nouveau levain de jeunesse, de créativité, d'invention qui secoue notre société peut faire lever la patte de formes nouvelles et plus riches de démocratie et de participation dans tous les organismes sociaux comme dans un État assoupli, décentralisé et désacralisé. Nous pouvons donc entreprendre de construire une nouvelle société. Une nouvelle société à laquelle nous aspirons. Il serait vain de prétendre en fixer à l'avance chacun des contours. Il faut laisser à l'avenir ce qui n'appartient qu'à lui. C'est la spontanéité du corps social qui en décidera. Mais il est permis, il est même nécessaire, d'en esquisser dès à présent les grands traits. Cette nouvelle société, quant à moi, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. Une société prospère parce que chacune des fins essentielles de notre vie collective suppose que nous disposions de grandes possibilités matérielles. Parce que c'est la prospérité qui permet de faire passer le droit dans les faits et le rêve dans la réalité. Une société prospère, c'est-à-dire une société dans laquelle chacun des gestes qui concourent à la production soit plus efficace, parce qu'il incorpore plus de savoir et s'insère dans une organisation plus réfléchie et prend appui sur une plus grande quantité de capital accumulé. Mais si la prospérité conditionne tout, elle n'est pas tout. L'exemple de pays plus avancés que le nôtre dans la voie du développement économique le montre suffisamment. La prospérité est nécessaire pour édifier une société meilleure. Elle n'est pas suffisante, à beaucoup près, aux yeux de ceux qui ne manquent pas d'ambition humaine. Les mots qui les ont désignés, ces ambitions, liberté, égalité, fraternité, ont perdu, il est vrai, une partie de leur sens. D'abord parce qu'ils sont anciens, ensuite parce qu'ils sont abstraits. Mais c'est à nous qu'il appartient de leur donner un sens nouveau, une réalité nouvelle et concrète que seul rend possible le développement économique. Une société libérée, celle dont nous rêvons, est une société qui, au lieu de brider les imaginations, leur offre des possibilités concrètes de s'exercer et de se déployer. C'est pourquoi notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années nous offre une chance unique de rajeunissement. En outre, l'éclosion des talents est souvent plus précoce aujourd'hui qu'il y a un siècle. Comment refuserions-nous, au nom de principes caducs et en nous accrochant à des structures périmées, d'offrir à notre jeunesse une participation pleine et entière à la construction de l'avenir, de son avenir. Mais cette société ne sera vraiment la sienne et du même coup pleinement la nôtre que si elle est plus généreuse. C'est sous l'égide de la générosité que je vous propose de placer notre action. Nous devons aller au-delà d'un égalitarisme de façade qui conduit à des transferts importants sans faire disparaître pour autant les véritables pauvretés morales et matérielles. Nous devons, par une solidarité renforcée, lutter contre toutes les formes d'inégalité des chances. Nous devons aussi apprendre à mieux respecter la dignité de chacun, admettre les différences et les particularités, rendre vie aux communautés de base de notre société, humaniser les rapports entre administration et administré, en un mot, transformer la vie quotidienne de chacun. Enfin, et c'est là l'essentiel, nous devons reprendre l'habitude de la fraternité, en remplaçant mépris et indifférence par compréhension et respect. Rien de tout cela ne sera possible sans un vaste effort d'imagination et d'organisation dans tous les domaines, visant à la fois l'éducation permanente et le libre accès à l'information, la transformation des rapports sociaux et l'amélioration des conditions et de l'intérêt du travail, l'aménagement des villes et la diffusion de la culture et des loisirs. Quelle exaltante entreprise! Bien entendu, ce n'est pas en un jour que nous atteindrons de tels objectifs. Ce n'est pas en un jour non plus que nous définirons les étapes et que nous fixerons les moyens. Cela ne pourra être fait qu'après une consultation approfondie de l'ensemble des partenaires économiques et sociaux. Mais dès à présent, car il faut agir vite et fort, voici les orientations fondamentales et les premières mesures que je soumets à votre approbation.
Prise de parole du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, le 16 septembre 1969 à l'Assemblée nationale.
Les allumeurs de réverbères.